Salut les auditrices et les auditeurs, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Transition. Ça fait bien longtemps que j'étais pas derrière le micro pour ce podcast, les choses vont changer pour ces prochaines semaines. Faut dire que tenir un site web, une chaîne YouTube, des réseaux sociaux, trouver du matériel intéressant à publier sur chacun de ces vecteurs et en plus entretenir un podcast, c'est compliqué. Et le problème, c'est que trouver des invités, trouver des thématiques, organiser les choses pour enregistrer des épisodes de podcast, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de planification. Et bien, depuis le début de l'été, j'ai pas réussi à trouver le temps d'organiser un nouvel épisode. Et du coup, j'ai décidé de changer un petit peu de stratégie pour le podcast Transition. On va aborder beaucoup de sujets d'actualité, beaucoup plus de sujets d'actualité sur la montre cardio-GPS, sur le marché du sport et de la technologie, et puis aussi sur le sport d'endurance dans les épisodes qui viendront dans les prochaines semaines. Et on va ainsi terminer cette saison 3. Et puis, je trouverai probablement un équilibre entre les coulisses de Nakan.ch qu'on a commencé ce début d'année et ce début de saison 3, les sujets d'actualité, et les invités qui viendront échanger dans ce podcast sur différentes thématiques pour la prochaine saison, en espérant garder un petit peu plus de régularité dans la publication d'épisodes. Tout ça, c'est dit. Maintenant, l'idée, c'est de parler de l'épisode du jour. Et l'épisode du jour, c'est Strava et Suunto qui attaquent Garmin en justice. On va décortiquer un petit peu tout ça. Vous avez probablement entendu l'une ou l'autre de ces affaires dans les médias spécialisés au cours de ces dernières semaines. On a principalement parlé du fait que Strava allait attaquer Garmin. On a un petit peu moins parlé de Suunto. Pourtant, Suunto a attaqué en premier, on le verra tout à l'heure. Et puis, surtout, à mon avis, Suunto a de meilleures armes pour réussir. Et enfin, on va parler de la coïncidence ou pas de ces deux attaques contre Garmin qui arrivent quasiment simultanément. Et on va voir, pour terminer, que les affaires juridiques, judiciaires, de défense, de propriété intellectuelle sont assez monnaie courante, finalement, même si on n'en parle pas souvent dans le monde de la tech sportive. Il y en a quand même régulièrement. Et on va faire un petit point sur les choses qui sont en cours actuellement. Donc la première chose peut-être, c'est remettre un petit peu de contexte dans tout ça pour les personnes qui n'ont pas forcément suivi ces affaires de près et qui découvrent un petit peu ces choses-là, tout ou partie. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que tout a commencé le 2 octobre quand on a appris via le site de DC Rainmaker que Strava attaquait en justice Garmin. Au sujet de deux brevets potentiellement violés par Garmin ces dernières années qui concernent les segments. Donc on connaît bien les segments sur Strava par exemple, mais il faut savoir que Garmin a implémenté sa propre solution de segments sur Garmin Connect depuis maintenant bien longtemps. Le segment, c'est assez simple, on définit un tracé GPS sur une section de route, de chemin ou d'itinéraire. Et puis ensuite, tout le monde peut s'affronter virtuellement dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire que toutes les personnes qui veulent s'affronter sur ce segment, le parcourent quand elles en ont envie avec un dispositif GPS, elles synchronisent leur trace avec Strava. Strava calcule le début et la fin du segment et puis on établit un classement. On peut établir un classement chez les hommes, les femmes, chez les personnes d'un certain âge, chez les personnes d'un certain poids. Enfin, il y a beaucoup de catégories qui sont disponibles chez Strava par exemple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Garmin a implémenté les segments quasiment de même manière dans Garmin Connect depuis bien longtemps. Et propose même des segments Garmin Live, comme on connaît les segments Strava Live sur les compteurs cyclistes, notamment sur les compteurs Edge, et on peut les suivre en temps réel, tout comme les segments Strava donc, sur le compteur. Pendant qu'on est en train de réaliser le segment, on voit si on est en avance ou en retard sur le meilleur ou sur son meilleur chrono du segment, par exemple. Ensuite, Strava attaque également Garmin concernant les heatmaps, donc les cartes de popularité. Ce sont des cartes sur lesquelles on voit les tracés de plusieurs d'agrégations en fait de plusieurs utilisateurs de la plateforme. Et ces heatmaps permettent ensuite d'alimenter des algorithmes pour établir des itinéraires qui sont empruntés par beaucoup de pratiquants. On a des heatmaps de cyclisme, de course à pied, de randonnée, de trail, par exemple. Et ces heatmaps, eh bien, on les connaît sous forme de cartes de chaleur où on voit plus un itinéraire est brillant et épais, plus ça veut dire qu'il y a d'utilisateurs qui sont passés à cet endroit-là sur la carte. Quand on connaît pas un endroit, c'est une solution hyper cool pour déterminer les les endroits où on a envie d'aller courir ou rouler, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a plein de cyclistes ou de coureurs à pied locaux qui ont emprunté ces itinéraires. Donc ça a été annoncé le 2 octobre par DC Rainmaker, mais par contre la plainte a été déposée par Strava le 30 septembre devant une cour de l'État du Colorado aux États-Unis. Le 2 octobre au soir, donc le même jour que la publication de l'article de DC Rainmaker, le Chief Product Officer de Strava réagit sur Reddit. Le message est plus ou moins étrange. Il dit en résumé que l'attaque... c'est la réponse de Strava face au changement de politique d'API. Donc l'API, c'est la partie logicielle qui permet d'interconnecter les services. Par exemple, là, c'est les API de Garmin, donc qui permettent d'interconnecter les services de Strava et de Garmin. Ça veut dire, en gros, je synchronise mon activité de ma montre Garmin avec mon Garmin Connect. Et puis ensuite, via le jeu des API, donc via des interactions logicielles, automatiquement, mon activité, elle est transférée chez Strava si j'ai couplé les deux comptes. Donc, l'API de Garmin, il y a des nouvelles conditions d'utilisation de ces échanges de données. Et Garmin, maintenant, veut se servir des plateformes externes, donc comme Strava, par exemple, mais d'autres, peut-être aussi comme support marketing. Donc ça, c'est la vision du Chief Product Officer de Strava, hein. En ajoutant le logo de Garmin sous toutes les données qui sont issues d'une montre Garmin. Alors que Strava dit dans ce post, considérer que les données enregistrées par un utilisateur sur sa montre, eh bien, sont propriété de l'utilisateur lui-même et non de la marque qui possède la montre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'inscrit dans un contexte un petit peu plus global où Strava a changé ses propres conditions d'utilisation de ses propres API il y a à peu près une année en les rendant très restrictives et en impactant énormément de plateformes externes. Alors, c'était pas forcément pour faire spécifiquement de la publicité et mettre des logos Strava sur les plateformes externes, mais c'était surtout sur l'utilisation des données. Donc, quand Strava argumente en disant « les données que vous enregistrez avec votre montre sont les vôtres et pas celles de la plateforme », c'est exactement le contraire de ce que Strava a stipulé dans ses propres conditions d'API il y a une année. Donc ça, c'est un petit peu le contexte de la plainte qui a été déposée par Strava contre Garmin. Et puis, le 3 octobre, donc le lendemain, on apprend que Suunto attaque à son tour Garmin. Mais en fait, c'est pas vraiment à son tour, puisque la plainte de Suunto a été déposée le 22 septembre, donc 8 jours avant la plainte de Strava. Par contre, ça n'a été rendu vraiment sur la place publique que le 3 octobre par le site Garmin Rumors. Et là, on apprend bien que Suunto ne se plaint pas seulement de 2 brevets comme Strava, mais de 5 qui couvrent des aspects tant logiciels que matériels. Et que la plainte a été déposée devant une cour du Texas. Et ça a son importance parce que cette cour en particulier, elle a la réputation aux États-Unis, et les chiffres vont dans ce sens-là, de rendre des jugements ultra favorables concernant la propriété intellectuelle et les brevets logiciels en général aux plaignants. Et donc, Suunto a vraiment étudié son affaire et a vraiment déposé cette plainte devant une cour qui a déjà potentiellement plus de chances de rendre un verdict favorable à Suunto que s'il l'avait déposé ailleurs aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, moi je ne suis pas juriste, je ne suis pas spécialiste du droit et encore moins spécialiste du droit des brevets américains et de la propriété intellectuelle telle qu'elle est jugée aux États-Unis. Par contre, de toutes les informations que j'ai pu trouver sur ce dossier avant d'enregistrer cet épisode, eh bien, c'est que pour poser une plainte devant n'importe quelle cour aux États-Unis, il faut simplement qu'il y ait eu une violation du cas qui est déposé dans le comté ou dans l'État dans laquelle la plainte est déposée. Donc, il suffit, par exemple, pour Suunto de trouver un magasin de sport qui vend une montre Garmin dans cet État ou dans ce comté au Texas, qui viole les brevets, et puis on peut le déposer ici comme on aurait pu le déposer à New York, à San Francisco ou ailleurs. Et du coup, Suunto a décidé de le poser ici, et à mon avis, c'est vraiment à dessein parce que cette cour-là est vraiment réputée pour rendre des jugements favorables. Donc, on l'a dit, la plainte de Suunto est survenue en premier. Elle porte sur des points, on a dit, logiciels et matériels, plus spécifiquement 5 brevets donc, qui concernent la détection et l'analyse de la trajectoire de mouvement de golf, Et ça, c'est une surprise parce que je ne savais pas que Suunto avait déposé des choses en propriété intellectuelle qui concernent les mouvements de golf. Donc ça, ça impacte toutes les séries de montres de Garmin et les accessoires qui concernent la mesure de golf. Donc Garmin propose non seulement des accessoires qu'on peut fixer à son club pour vérifier la trajectoire de son cou, et également eh bien toutes les fonctionnalités qui sont liées aux montres Approach, Phoenix et Mark, par exemple, qui intègrent des fonctionnalités avancées de golf. Il y a un deuxième aspect qui est couvert par ces brevets, c'est la détection via la mesure de fréquence cardiaque de facteurs physiologiques, notamment le rythme respiratoire. On va voir que celui-là est particulièrement intéressant. Et puis, un troisième aspect qui concerne plusieurs brevets également, c'est le design et la conception d'antennes pour des montres en particulier dont le boîtier est en métal. Ça vise très spécifiquement les montres Phoenix des séries 5, 6, 7 et 8, ainsi que les montres Mark. Mais pour terminer, d'abord la mise en contexte, eh bien, il faut savoir que Strava semble chaque jour un peu plus proche et les rumeurs se transforment chaque jour un petit peu plus fort vers une IPO, c'est-à-dire une Initial Public Offering. C'est une entrée en bourse de Strava et donc de l'ouverture de l'achat d'actions au marché. Et ça, ça a une importance dans la mise en contexte au niveau financier, tout simplement parce que pour avoir une valeur d'action initiale la plus haute possible, eh bien Strava va essayer de valoriser sa propre valeur le plus haut possible. Et pourquoi pas, si on gagne un procès contre Garmin, ça peut aider à augmenter la valeur initiale des actions. Donc si on s'intéresse un petit peu plus proche déjà au cas Strava contre Garmin, donc Strava attaque Garmin sur des brevets qui sont assez anciens, et puis personnellement, mon avis, même si encore une fois, je ne suis ni juriste, ni avocat, ni spécialiste du droit de la protection intellectuelle, de tout ce que j'ai lu maintenant, y compris l'article de DC Rainmaker qui a pas mal disséqué les choses, mais il n'est pas non plus, lui, ni juge, ni avocat, ni juriste, mais il a quand même pas mal sorti d'articles techniques et puis ressorti un petit peu des archives, des choses intéressantes. Ces réclamations semblent quand même assez peu solides. Strava demande l'arrêt de la commercialisation des appareils Garmin qui violent ces brevets. A priori, il s'agit de toutes les montres de sport de Garmin, ou en tout cas la grande partie, puisque toutes intègrent plus ou moins la notion de segment et de heatmaps. Et puis, la mise hors ligne de Garmin Connect en l'état, tout simplement parce que y a des notions aussi de segment et de heatmaps directement dans l'app Garmin Connect. Ça semble un petit peu surdimensionné par rapport à des brevets qui ont été lancés il y a plusieurs années, et surtout, du fait que Garmin a introduit des heatmaps sur sa plateforme avant Strava. Ça, c'est une affirmation de DC Rainmaker qui a ressorti des captures d'écran qui le prouve tout simplement, et du fait que Garmin n'a jamais vraiment fait un usage très extensif de ses propres solutions de segment, en mettant quasiment systématiquement en avant ceux de Strava sur ses montres et appareils. Le cas n'est pas gagné d'avance pour Garmin, mais le cas va quand même être plus simple dans ce cas-là que dans celui de Suunto, qu'on va aborder tout de suite. On en a probablement moins parlé que du cas de Strava, mais à mon avis, il est plus sensible pour Garmin, car plus solide, celui de Suunto. Parce que d'une part, le dossier semble mieux fourni, il y a plus de brevets qui sont concernés, il y a des choses plus précises qui sont concernées, il y a des aspects tant matériels que logiciels qui sont concernés, et en plus, le dépôt de la plainte, on l'a vu, a été déposé devant une cour particulièrement bien étudiée a priori. J'ai pas l'impression qu'on a trouvé énormément de choses sur la cour du Colorado devant laquelle Strava a posé son dossier contre Garmin. Par contre, on trouve des choses assez intéressantes sur la cour du Texas auquel Suunto a décidé de soumettre le cas, qui semble rendre des avis favorables. Dans ce cas-là, on l'a déjà vu. On a du mélange de propriété intellectuelle sur du logiciel et du matériel, donc ici, mais en plus, ça concerne a priori des algorithmes issus de Firstbeat que Garmin a acquis en juin 2020. Et ça, c'est très, très intéressant parce que ça va rendre la tâche un petit peu plus dure encore aux avocats de Garmin, on va le voir. Suunto attaque clairement les montres, on l'a dit, Fenix 5, 6, 7, 8 pour la conception de l'antenne et les algorithmes physiologiques dessus et les fonctionnalités de golf. Donc, il y a vraiment trois aspects différents qui sont attaqués sur ces montres. Quand on dit Fenix 5, 6, 7, 8, ça concerne également toutes les Epix, y compris la toute première génération, là, l'espèce de gros pavé qu'il y avait de la Carto, la Gen 2 et la Gen 2 Pro, ainsi que les montres Approach de golf, et puis toutes celles qui pourraient intégrer les fonctionnalités de golf. J'imagine que Garmin l'a également intégré à la Venue X1 et puis peut-être à la Venue 4, ainsi qu'au modèle Mark et les accessoires qu'on peut mettre dans ces clubs de golf. Donc, ça fait quand même un bel environnement matériel qui est vendu par Garmin qui impacterait quand même fortement la marque si elle devait les retirer du marché, en tout cas même le temps de les mettre en conformité avec le jugement qui serait rendu par cette cour. Et puis, pourquoi est-ce que Suunto attaque maintenant ? On va voir de manière un petit peu plus détaillée après qu'est-ce qui se passe, mais certains de ces brevets de Suunto, et notamment certains sur le golf et puis sur le design des antennes, approche de l'expiration. Un brevet, normalement, ça a une durée de vie de 20 ans. Le nouveau propriétaire de Suunto, qui est Li Sheng, une société chinoise, a peut-être décidé que c'était le moment de faire valoir le potentiel de cette propriété intellectuelle de Suunto avant qu'elle ne tombe dans le domaine public. Parce que les brevets arrivent à expiration, et puis peut-être pour faire un retour sur investissement un peu plus important que juste le rachat de la société et puis de vendre des montres de sport. Ça, c'est l'hypothèse de base hein, quand on voit ces choses-là. Donc, à première vue, les deux cas semblent dissociés. Strava veut montrer les muscles avant une IPO, et puis Li Sheng veut optimiser son rachat de Suunto en exploitant les brevets avant qu'ils expirent. Ça, c'est l'analyse prépondérante, mais moi, je ne suis pas convaincu pour une raison assez simple. C'est que, un, les dommages chez Strava sont bien plus importants que le potentiel bénéfice de cette attaque parce que il suffit d'ouvrir Reddit et puis de regarder le subreddit lié à Strava pour voir qu'il y a un Strava bashing monstrueux depuis que l'annonce de cette attaque en justice a été faite. Et la réponse du Chief Product Officer de Strava n'a rien arrangé du tout. Au contraire, elle a même rajouté de l'huile sur le feu. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens sur ce subreddit qui annoncent qu'ils interrompent ou qu'ils annulent leur abonnement Strava. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour la marque, même si cet effet d'annonce sur Reddit de quelques utilisateurs est pas forcément significatif de l'utilisateur de masse de Strava. Mais ensuite, si on fait un petit peu de data mining, notamment dans les rapports qui sont publiés par Strava, le Strava Year in Review, qui sont publiés chaque année, eh bien, on comprend que même si Strava occulte un petit peu certaines données en classant toutes les Apple Watch, par exemple, dans la même catégorie, alors qu'il dissocie chaque modèle de Garmin pour le décompte de montres qui sont utilisées. Les montres Garmin, si on les met toutes ensemble, représentent plus de la moitié des montres qui sont utilisées dans Strava. Donc, on exclut tout ce qui est uniquement application. Donc, les gens qui s'entraînent uniquement avec leur smartphone, on garde que les gens qui utilisent une montre. On exclut aussi tous ceux qui ont des compteurs cyclistes ou autres. Et puis là, on regarde, il y a une surreprésentation de deux marques, c'est Apple et Garmin, mais Garmin, si on prend tous les modèles ensemble, j'ai l'impression que ça représente plus de la moitié des montres qui sont utilisées. Et puis, l'autre moitié est représentée à grande partie d'Apple Watch, et le reste, c'est Suunto, Polar, Coros, et puis les autres marques de montres. Ça peut être aussi bien des montres connectées comme les montres Samsung, Huawei, etc., ou des montres à mi-chemin entre la montre connectée et la montre sportive. On pense ici aux montres Amazfit, par exemple. Et puis, si on creuse un tout petit peu plus loin encore, qu'on regarde, qu'on croise les données du Strava Year in Review, qu'on prend les données qu'on voit sur Reddit et qu'on met un petit peu tout ensemble, en creusant un tout petit peu plus loin encore, on arrive à se rendre compte que les abonnés payants sont surreprésentés dans les propriétaires de montres Garmin. Ça veut dire que si Aujourd'hui, Garmin se fâche vraiment avec Strava à cause de ce procès et coupe la liaison automatique de ses API vers Strava. Eh bien, possiblement, les utilisateurs de montres Garmin vont interrompre leur abonnement chez Strava parce qu'il n'y a plus de choses qui marchent automatiquement et la plus-value est plus très intéressante. Et là, ça va faire vraiment du dommage chez Strava parce que ce sera une grande partie des utilisateurs payants de la plateforme. Donc, il y a un point aussi, c'est que Strava demande l'interdiction de vente de matériel Garmin, mais ça fait aucun sens si on prend Strava tel qu'il existe aujourd'hui, pour une simple et bonne raison, c'est-à-dire que s'il se vend moins de montres Garmin, eh bien, il y a potentiellement, comme on l'a vu juste maintenant, moins d'abonnés payants qui vont entrer chez Strava, alors que la croissance de Strava est pour l'instant quand même assez intéressante. Puisqu'il gagne plusieurs milliers voire millions d'abonnés payants chaque année. Si on diminue le nombre de montres Garmin vendues, on diminue mathématiquement le nombre de comptes Strava payants qui vont s'ouvrir au cours de cette période de temps. Et puis enfin, je ne pense pas non plus que Strava a un intérêt monstrueux à lancer cette action, tout simplement parce que les arguments sont quand même pas très solides. Moi, en tant que néophyte là-dedans, j'ai quand même pas l'impression que le dossier de Strava va tenir très très longtemps dans le jugement. Donc, potentiellement, si on analyse très rationnellement tout ça, pour moi, il n'y a rien de très très bon à tirer pour Strava dans cette action-là. Mais si on regarde par contre le cas de Suunto, eh bien Suunto n'a quasiment pas essuyé de critique après son attaque. On n'a rien vu de massif, en tout cas rien à la hauteur de ce qui s'est passé pour Strava sur les forums et notamment sur Reddit aussi. Et puis Suunto par contre peut tirer un bénéfice très important de l'interdiction directe de vente de certains modèles de Garmin parce que Suunto vend tout simplement des montres. Et si dans le rayon électronique de sport d'un magasin, vous n'avez plus de montres Garmin, mais que vous avez un présentoir avec des montres Suunto, eh bien, la personne qui venait s'acheter une montre connectée qui n'est pas ultra spécialisée, qui venait pas avec un modèle particulier en tête, il y a de grandes chances qu'elle reparte quand même avec une montre. Ce sera pas une Garmin, mais ce sera une autre. Et potentiellement, ça pourrait être une Suunto. Et ensuite, le dossier de Suunto, hein, je l'ai dit, à mon avis, même si je ne suis pas un spécialiste du domaine, a quand même l'air plus solide et plus dangereux pour Garmin. Et puis, on voit qu'il a été bien étudié parce que déposé dans un endroit stratégique devant un tribunal qui est beaucoup plus stratégique que celui de Strava. Donc, si c'est une coïncidence, elle est vraiment immense. Et puis, si elle ne l'est pas, ça veut dire que Suunto et Strava se sont entendus pour ces actions. Et puis, ça pourrait être une stratégie qui permet plusieurs avantages pour les deux sociétés. La première, c'est de charger doublement le travail des équipes juridiques de Garmin. Ça ralentit l'efficacité des équipes juridiques de Garmin sur chacun des dossiers, puisqu'ils doivent se séparer en deux équipes pour gérer chacune un des dossiers de défense et puis essayer de gagner chacun des cas. Et puis surtout, ça prend des forces parce que s'il y a uniquement Strava qui attaque sur deux dossiers qui sont pas forcément béton, ça permet à Garmin de rechercher de la propriété intellectuelle, de monter un dossier et d'attaquer Strava en retour. Et puis ensuite, ça offre un espèce de levier au niveau des négociations en disant « Ok, si tu retires ta plainte, je retire la mienne. Par contre, si tu continues, moi je continue. » Et puis si Garmin arrive à mettre le doigt sur quelque chose d'un peu plus intéressant que Strava, eh bien c'est une situation qui se retourne. Garmin a une situation avantageuse et puis Strava doit peut-être chercher un compromis que elle n'aurait pas souhaité signer au début. Donc ça, c'est déjà un avantage, c'est que si on met sous pression les équipes juridiques d'une boîte en attaquant sur plusieurs aspects, on réduit la capacité de cette même entreprise à contre-attaquer. Ensuite, la charge de Suunto sur les algorithmes de Firstbeat qui a été acquise par Garmin en 2020, on en a parlé précédemment, c'est là que ça devient très très intéressant. C'est vraiment une masterclass en termes de surcharge des équipes juridiques parce qu'on peut imaginer que Garmin a récupéré Firstbeat, les algorithmes, les personnes qui travaillent dans la technique, dans la recherche scientifique sur ces algorithmes, mais on peut imaginer que Garmin n'a pas forcément conservé 100% du personnel de Firstbeat et notamment pas les équipes juridiques. Ça veut dire que Garmin aujourd'hui a les avocats de Garmin, que les avocats de Firstbeat ne sont plus forcément disponibles. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts pour les retrouver ou pour creuser les dossiers et retrouver tout ce qu'il fallait savoir sur la propriété intellectuelle de Firstbeat, quand sont sortis les premiers algorithmes, quand ont été effectuées les recherches, etc. et retrouver des preuves d'ancienneté pour ces algorithmes-là. Ça risque de prendre beaucoup plus de temps aux juristes et avocats de chez Garmin par rapport à des juristes et avocats de chez Firstbeat de l'époque qui, eux, connaissaient très bien ces dossiers puisqu'ils les ont suivis dans la société Firstbeat depuis le début. Et ça, vraiment, ça risque de surcharger encore un petit peu plus les équipes juridiques de chez Garmin. Et puis enfin, on comprend peut-être mieux si les deux cas sont synchronisés entre les deux sociétés que la séparation géographique des deux cas. On pourrait se dire, ok, bon, la cour du Texas, elle est très intéressante parce qu'elle rend des jugements favorables. Estrava et Suunto déposent la plainte au même endroit, mais ça veut dire que la situation prend plus de temps parce que cette cour-là va devoir gérer les deux dossiers, et surtout, les équipes juridiques de Garmin vont pouvoir être sur place pour les deux cas, alors que si les deux cas sont jugés dans des tribunaux différents, ça oblige vraiment les équipes de Garmin à se splitter en deux, alors que Strava concentre ses efforts sur la cour du Colorado et Suunto concentre ses efforts sur la cour du Texas, comme on l'a vu. Et là, ça ferait peut-être un petit peu plus sens d'avoir cette séparation géographique. Alors, si Strava et Suunto se sont entendus dans ce cas-là, c'est une supposition de ma part, hein, il n'y a absolument aucune preuve, aucun faisceau de preuve qui va dans cette direction pour l'instant, c'est vraiment juste une supposition, mais pourquoi est-ce qu'ils l'auraient fait? Eh bien, il faut essayer de réfléchir à une situation dans laquelle les deux sociétés auraient intérêt à voir, au moins temporairement, l'arrêt de vente de montres Garmin que un des deux cas pourrait prononcer. Pour moi, il n'y a pas vraiment 1000 solutions. Il s'agirait que Strava et Suunto aient décidé d'un partenariat rapproché entre ces deux marques. Le plus évident, évidemment, ce serait de lancer du matériel, une montre ou un accessoire qui est proche en collaboration entre Suunto et Strava. Donc, ça peut être soit du matériel qui est fourni par Strava avec des technologies logicielles de Suunto à l'intérieur, ou à l'inverse, eh bien, une montre de Suunto ou un appareil de Suunto qui est proposé en collaboration avec des technologies logicielles qui sont issues de Strava. Et ça pourrait presque plus tendre vers un compteur cycliste. On se rappelle que plusieurs utilisateurs, hein, moi y compris, avaient reçu dans l'app de Suunto plus tôt cette année un sondage qui était assez précis et qui posait des questions assez spécifiques de la part de Suunto sur un potentiel nouveau compteur vélo de la marque. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Suunto va lancer un compteur cycliste avec des technologies de Strava à l'intérieur directement? C'est pas à exclure. En tout cas, si une cour annonce temporairement la fin des ventes de matériel Garmin le temps de se mettre en conformité et que ça inclut les compteurs Edge, ce serait évidemment le moment idéal pour lancer un nouveau compteur cycliste pour n'importe quelle autre marque ou n'importe quel autre partenariat entre deux marques. Et puis, il y a un élément qui est assez intéressant et qui est assez anecdotique, mais assez intéressant quand même à souligner, c'est que les heatmaps sont largement utilisés par Suunto, hein, qui les partage d'ailleurs actuellement avec d'autres fabricants comme les compteurs Hammerhead Karoo. On peut intégrer les heatmaps de Suunto sur les compteurs Karoo. Et pourtant, Strava n'a pas attaqué Suunto sur l'utilisation des heatmaps et donc de son brevet, hein, qui couvrirait également cette utilisation de Suunto probablement. Eh bien, Strava n'a pas attaqué Suunto, donc Strava attaque Garmin, Suunto utilise des heatmaps, mais Suunto n'est pas attaqué par Strava, les deux plaintes arrivent en même temps ou presque, et puis les deux demandent à peu près la même chose, c'est-à-dire le retrait du marché d'appareils Garmin. Si c'est une coïncidence, c'est quand même très très fort. Mais s'il s'agit d'une coïncidence, c'est tout à fait possible et c'est la piste qui est privilégiée par beaucoup en ce moment. Il faut savoir que c'est tout à fait plausible, hein. Ça pourrait être un coup de bol monumental pour les deux marques parce que ça leur donne quand même un petit peu plus de chances de succéder dans les deux cas parce que les équipes juridiques de Garmin seront quand même sur les deux feux en même temps. Ça reste évidemment, même si c'est pas coordonné entre les deux marques. Mais il faut savoir que le monde des wearables est constamment rythmé par des actions juridiques. On l'a vu pendant très très longtemps, Massimo, une marque qu'on connaissait pas du tout, qui détenait des brevets sur la mesure de saturation d'oxygène, donc le SPO2, notamment qui est utilisé par les capteurs de nos montres, eh bien, ils ont forcé, via la justice, à Apple de retirer la mesure de saturation d'oxygène sur les Apple Watch pendant près de 2 ans avant que les deux marques, eh bien, trouvent un accord et puis que Apple puisse réintégrer la mesure de saturation d'oxygène sur les Apple Watch. On n'a pas été concerné en Europe ou dans le reste du monde, ça s'est cantonnée au marché américain, mais il faut savoir que le marché américain reste le premier marché pour toutes les marques de wearables, quelles qu'elles soient. Et donc, c'est quand même sur ce marché-là que c'est le plus intéressant d'avoir des interdictions de vente. Et puis, si on veut d'autres exemples, très récemment, on a Whoop, par exemple, le fameux fournisseur de bracelets connectés qui attaque Polar. C'était le 14 octobre, donc c'est très récemment. Concernant le design du nouveau bracelet Polar Loop, c'est également devant une cour des États-Unis, plus précisément à New York. Là, ça concerne pas les fonctionnalités ni le logiciel, etc., puisque les montres Polar utilisent depuis très longtemps toutes les fonctionnalités de mesure physiologique et mesure d'exercice qui sont intégrées au Polar Loop. Ça concerne uniquement le look, l'apparence du bracelet qui, pour Whoop, eh bien, se rapproche beaucoup trop du bracelet Whoop qui est un bracelet identifiable à la marque Whoop, d'après eux. Ce sera donc à la cour de New York de statuer si le bracelet Loop, on peut déjà voir hein, qu'il y a une connotation au niveau du nom, hein, Whoop, Loop, qui est déjà très proche. Et puis, pour Whoop, eh bien, le look de Polar Loop est trop proche du leur. Et donc, on verra ce que ça va statuer. Mais dans le cas qui nous intéresse, je me demande encore quel est l'objectif de Strava, si vraiment il y a une coïncidence, parce que Strava a récemment, très récemment, décidé, en tous les cas, de se plier déjà aux exigences de Garmin hein, concernant les conditions d'utilisation de l'API de Garmin pour ne pas casser le transfert automatique des données. Ils ont bien compris que si les montres Garmin ne synchronisaient plus les activités vers Strava, ils allaient vers leur perte, surtout avant une entrée en bourse. Donc, les utilisateurs de montres Garmin sont tranquilles. Le 1er novembre, il y aura un logo Garmin supplémentaire qui va venir sur les fiches de Strava pour lesquelles des données Garmin sont affichées. Il y aura probablement un petit logo, il y aura la marque Garmin en plus du nom du modèle qui est déjà présent, mais vraiment Strava, je pense, aurait beaucoup trop à perdre et vraiment pas grand chose à gagner en allant jusqu'au bout de ses revendications et en coupant la synchronisation depuis les montres Garmin. Pour moi, donc Strava est déjà à moitié en train de rétro-pédaler, en tout cas de concéder quelque chose à Garmin, même si évidemment hein, le jugement lui-même reste en place, donc le cas va quand même se tenir. Suunto a quand même l'air un petit peu plus en position de gagner quelque chose, et puis surtout Suunto dans ce procès n'a pas l'air d'avoir grand chose à perdre par rapport à Strava, qui pourrait voir son business model quand même sérieusement affecté si Garmin prenait des mesures de rétorsion. Je pense que Garmin n'a pas beaucoup de mesures de rétorsion vis-à-vis de Suunto. Ça aurait pu être le cas il y a quelques années quand Suunto utilisait encore les algorithmes de Firstbeat, même quand ils sont passés chez Garmin, puisque par exemple la première verticale, la verticale 1, lors de sa sortie, utilisait par exemple des algorithmes proches de celui du body battery de Garmin qui était licencié chez Firstbeat puis chez Garmin sur la montre. Donc si c'est le cas là, on peut imaginer, ok, Garmin cesse de fournir ses algorithmes, les montres Suunto ont moins de fonctionnalités, mais aujourd'hui Suunto a récupéré la main sur l'intégralité des fonctions qui sont affichées dans les widgets et les mesures de la montre, et il n'y a plus rien qui est licencié chez Firstbeat sur les montres de Suunto. Donc, il va falloir suivre ces affaires attentivement. À court terme, c'est jamais très positif pour les utilisateurs. Hein. Interdiction de vente, retrait de fonctionnalité, interruption de fonctionnalité des applications, etc. C'est jamais très positif. À plus long terme, ça permet quand même de maintenir une concurrence plus saine. Ça évite que des sociétés qui sont vraiment disproportionnellement plus grandes, comme par exemple Garmin, face à Suunto, face à Polar, face à Coros, eh bien, face tout et n'importe quoi, et puis marche sur la loi, notamment de la propriété intellectuelle et puis de l'innovation. Il y a quand même de l'innovation qui est faite chez Polar, il y a de l'innovation qui est faite chez Suunto, il y a de l'innovation qui est faite chez Coros, et certaines choses eh bien, doivent pouvoir être maintenues en tant qu'argument de ces marques avant qu'ils soient repris intégralement par Garmin. On sait que on marche toujours un tout petit peu sur les lignes hein, dans ce monde-là. Quand Garmin intègre quelque chose, on voit quelque chose d'équivalent ailleurs. On l'a vu avec des Climb Pro, on l'a vu avec d'autres choses. Maintenant, il faut aller regarder dans le détail si c'est des choses qui ont été déposées en termes de propriété intellectuelle ou pas. Mais ici, en tout cas, Suunto défend ses propres intérêts. Strava défend ses propres intérêts, mais je pense que vu l'ancienneté des fonctionnalités, vu le peu de solidité, j'ai quand même des doutes hein, sur le procès qui oppose Strava à Garmin. J'ai un petit peu plus d'intérêt à suivre celui de Suunto parce qu'à mon avis, il est un petit peu plus intéressant et solide. Donc là, il risque de sortir quelque chose, même si ce n'est pas forcément tout ce que Suunto demande. Ça risque quand même d'aboutir à quelque chose. Donc on va suivre ces affaires et y revenir hein, si nécessaire, notamment dans ce podcast ou sur nakan.ch. En attendant qu'on en sache un peu plus sur les premières, sur les premiers mouvements de ces procès, moi j'ai mis en lien beaucoup de choses sur la fiche de cet épisode sur nakan.ch. On a un article sur Strava qui vise une entrée en bourse en anglais de Cycling News. On a l'article de DC Rainmaker qui détaille le procès intenté par Strava contre Garmin. On a le site Garmin Rumors qui annonce le procès de Suunto contre Garmin. On a un lien vers les conditions d'utilisation des API de Garmin si ça vous intéresse de lire ça un soir où vous n'arrivez pas à vous endormir. On a la réponse de Strava sur Reddit par rapport à leur attaque. Et puis j'ai mis une liste de tous les brevets de Suunto qui sont cités dans l'attaque contre Garmin. Il y a des choses assez intéressantes sur les mesures de golf, sur les mesures physiologiques et sur 3 brevets qui concerne le design des antennes. Moi, je vous retrouve très, très bientôt dans cet épisode de podcast. Je vous laisse évidemment réagir à cet épisode si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous voulez réagir. C'est dans les commentaires de votre plateforme de podcast préférée ou sur l'article qui concerne cet épisode sur nakan.ch. Je vous retrouve très, très bientôt derrière le micro et pour un nouvel épisode du podcast Transition. D'ici là, moi, je continue à suivre l'actualité du sport connecté sur nakan.ch, sur la chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Et je vous y retrouve avec grand plaisir. À très bientôt.